est absolument essentiel.
Oui, absolument.
Absolument pas. Absolument.
Essentiel. Une émission présentée par Thomas Lacombe.
Il importe peu de descendre du singe. L'essentiel est de ne pas y remonter. Richard Wagner. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous allons parler géopolitique en compagnie d'un invité qui sait de quoi il parle. En effet, il est aujourd'hui consultant défense et stratégie sur France 2. Vous le voyez donc intervenir régulièrement auprès de David Pujadas pour parler des conflits actuels. Et puis, vous l'avez peut-être aussi entendu aux commentaires du traditionnel défilé du 14 juillet, accompagnant dans cette tâche la journaliste Marie Drucker. Mon invité est colonel de réserve opérationnelle, plusieurs fois décoré de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite, mais également de la Croix de la valeur militaire avec, citation. Mon invité a été conseiller du ministre de la Défense et porte-parole de ce ministère entre 1995 et 1997. Il a même créé le point presse. Mon invité, c'est Pierre Servent, et il publie en ce début d'année un livre très intéressant qui s'intitule « L'extension du domaine de la guerre » et c'est aux éditions Robert Laffont. Pierre Servent m'a reçu, chez lui, à Versailles, et nous avons parlé de Daesh, Boko Haram, Acme ou encore de Barack Obama. Bref, ce qu'il a à nous dire est absolument essentiel. Rencontre. Bonjour Pierre Servent.
Bonjour.
Alors en tant que consultant défense pour France 2, vous avez dû intervenir lors des nombreuses éditions spéciales qui ont été consacrées aux derniers attentats, ceux de janvier, ceux de novembre 2015. Et dans votre livre, L'extension du domaine de la guerre, paru aux éditions Robert Laffont, vous pointez du doigt le comportement irresponsable de certains journalistes, notamment sur les chaînes d'infos en continu. Vous soulignez à plusieurs reprises la différence entre informer et trop en dire, les djihadistes opérant des veilles médias à la fois pour recueillir des renseignements et récupérer des séquences qui vont ensuite être détournées et servir à leur propagande. Vous écrivez, dans un contexte de guerre, le nôtre, la communication est un vecteur armé puissant. Alors, dans de telles circonstances, comment est-ce qu'on trouve, quand on est consultant, les mots justes pour intervenir et commenter parfois l'actualité en direct ?
J'ai constaté une grande différence entre janvier et novembre. Il y a vraiment eu un gros effort de la part des journalistes, des médias, pour retirer les enseignements de janvier, où parfois il y avait eu des informations un peu malheureuses qui avaient pu sortir. Le point que je mets en avant dans le livre, c'est qu'il ne concerne pas que les journalistes. Je pose des questions également sur la communication du RAID ou de la BRI. Quand je vois des patrons, donc des services spécialisés de police, services remarquables avec des hommes qui ont été extrêmement courageux, mais je dirais se répandre dans les médias, donner des informations, je crois, capitales. Je donne l'exemple de cette interview au Figaro du patron de la BRI, qui en gros explique comment Koulibaly a été manipulé, mais en donnant le verbatim de ce qui a été dit pour le manipuler. C'est vraiment, je dirais, avoir une non-conscience des enjeux aujourd'hui de communication, de stratégie de communication de la part de Daesh. J'ai aussi pointé du doigt les erreurs de communication après l'affaire Mohamed Merah. Et donc, quand je dis que nous sommes en situation de guerre, et je le dis depuis longtemps, depuis 2009, je l'avais déjà écrit, je dois dire que j'étais un peu seul à dire ça, c'était pas du tout pour, je dirais, être belliciste, avoir une approche très militarisée du sujet, mais plutôt de dire « Attention, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère parce que le salafisme de combat nous a déclaré la guerre, alors pas seulement à nous, nous sommes le petit Satan, il y a le grand Satan, etc. Et donc, compte tenu de ça, il faut changer un certain nombre de choses.
Vous parlez de changer le logiciel, c'est une expression qui revient dans votre livre.
Voilà, il aurait fallu le faire déjà depuis longtemps. Changer le logiciel, c'était très en amont, renforcer la réserve opérationnelle, créer une garde nationale, que j'appelais de mes voeux, arrêter de diminuer le budget de la défense, essayer de regrouper des services de renseignement qui travaillent encore de façon trop séparée.
Dans de telles circonstances, comment est-ce qu'on trouve, quand on est consultant, les mots justes ?
Ça fait quarantaine d'années maintenant que je m'occupe de ces questions, donc c'est un sujet d'abord où, honnêtement, on est très peu nombreux à s'être occupé de ces questions depuis longtemps. Elles ont été évacuées du paysage français pendant très 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 longtemps. Après, j'étais en cabinet ministériel, donc j'étais un conseiller d'un des ministres de la Défense, donc évidemment ça permet de comprendre ce nombre de choses. J'étais porte-parole du ministère de la Défense, et le porte-parole... Le premier. Et donc, évidemment, ça vous amène à connaître beaucoup de choses et à essayer de faire œuvre de pédagogie, d'expliquer un certain nombre de choses, mais de pas tout dire, surtout pour ne pas mettre en péril les opérations et les soldats, hommes et femmes, qui servent.
Et cette pédagogie, on la retrouve dans votre livre, puisque vous arrivez à rendre des choses très compliquées, comme la géopolitique du Moyen-Orient, très accessible pour le lecteur. Votre livre, L'extension du domaine de la guerre, qu'on va continuer de feuilleter ensemble. Vous partez notamment de ce constat que faisait Didier Lebret, coordinateur national du renseignement à la présidence de la République. C'était le 15 septembre 2015, il disait « Nous sommes dans un monde dont l'instabilité est la seule chose prévisible ». La première partie de votre livre, qui permet de resituer le contexte de la géopolitique actuelle, il s'intitule « Le monde d'hier, un cocktail de surprises stratégiques ». Et alors parmi ces événements qu'il était difficile de prévoir, aux côtés de la crise boursière de 2008, aux côtés des printemps arabes qui se sont transformés presque partout, sauf en Tunisie, en hiver salafiste, eh bien, vous parlez d'une autre surprise, celle de la position de force qu'occupe aujourd'hui ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, dans le Sahel. Alors, comment l'expliquer ?
Alors, c'est intéressant, votre question pointe du doigt quelque chose de très important, qui est un des enseignements que je mets en avant dans le livre, c'est que quand vous laissez une petite métastase djihado-terroriste à un endroit, que vous la laissez tranquille pour diverses raisons, vous revenez 6 mois après, vous avez un début de cancer majeur. Vous laissez faire, vous revenez 8 mois après, vous avez un cancer généralisé. Et les métastases de ce cancer généralisé sont lancées dans tous les pays du pourtour, voire très loin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pour prendre une autre image, le virus salafiste est extrêmement proliférant, mutant et à une très très grande vitesse. Et je reviens effectivement sur ce qu'a été Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est le nom de marque d'un groupe qui s'appelait le groupe salafiste de prédication et de combat. 200 combattants algériens, étriés par la guerre civile algérienne qui a fait 150 000 ou 200 000 morts musulmans en Algérie, et qui, à la fin des années 90, au début de ce siècle, finalement se réfugient, vont vers le sud algérien, ils reculent de plus en plus, et se réfugient dans le nord du Mali. Alors pourquoi le nord du Mali ? Parce que ce sont des vastes zones assez désertiques, et complètement abandonnées par le pouvoir central de Bamako. Il y a des Peuls, il y a les Touaregs qu'on connaît bien, il y a d'autres tribus, et qui sont abandonnées par le pouvoir central. C'est un point important, parce que dans l'expansion des métastases djihadistes, il y a le fait qu'ils viennent se greffer très souvent sur des problématiques sociales et sur des populations abandonnées, notamment des jeunes populations abandonnées.
Vous parlez d'État failli ?
Exactement. C'est vraiment le cancer djihadiste adore les parties molles, les zones grises, les endroits où les États ne remplissent pas leur mission. Ils se nourrissent de cela. C'est vraiment un des adjuvants du cancer djihadiste. Donc, prenons ces 200 combattants algériens, il y a une expression militaire, vous me la pardonnerez, elle est un peu vulgaire, avec leurs bites et leurs couteaux. Alors en l'occurrence, quelques pick-up, des kalachnikovs, des grenades, des armes de poing, au mieux un vieux mortier, quelques mitrailleuses lourdes. Donc c'est vraiment du léger. J'aime bien, entre guillemets, rappeler leur nom, groupe salafiste de prédication et de combat, parce que c'est un des groupes qui affiche le mieux la couleur. En termes d'infos, avant qu'ils se franchissent ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, parce que Al-Qaïda était à l'époque le Daesh d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'espèce de phare du djihadisme international, et donc dans une volonté d'avoir un logo plus porteur, un brand plus porteur, ils sont appelés ACMI. Mais groupe salafiste de prédication, c'est intéressant. Groupe de combat. Salafiste, c'est vraiment donc la démarche d'Al-Qaïda et de Daesh, c'est-à-dire une vision intégriste du sunnisme. De prédication et de combat, le programme est affiché, c'est soit tu te convertis grâce à ma prédication, soit je te combats et je te tue. Donc c'est très très clair. Eh bien, ce petit groupe de gars vraiment paumés dans le désert du Mali, en 10 ans, ils vont parvenir à se constituer un trésor de guerre de 50 à 60 millions d'euros, ce qui est déjà considérable, mais dans une région de grande pauvreté, ça vous donne un pouvoir d'achat absolument terrible. Et cet argent est venu des rançons tirées à partir de l'enlèvement de touristes dans la région, sachant que notamment, par exemple, dans le pays d'Ogon, il y avait beaucoup de touristes, dans toute cette zone, Mauritanie-Mali. Et donc, ils font une pierre deux coups. Ils récupèrent beaucoup d'argent et ils tuent la manne touristique qui permettait à ces pays d'avoir quand même des subsides financiers. Et grâce à cet argent et grâce à une stratégie d'expansion du djihadoterrorisme, ils vont parvenir à polluer les Touaregs qui pratiquent un islam modéré, du juste milieu. Chez les Touaregs, ce sont les hommes qui sont voilés, les femmes sont dévoilées. Et ils vont parvenir, en 2012, à faire la conquête de tout le Nord Mali. Ils vont nouer des liens avec Boko Haram, qui se rallie à Al-Qaïda. Aujourd'hui, Boko Haram est rallié à Daesh, donc Boko Haram beaucoup plus au sud, au Nigeria. Et ce que j'avais révélé dans un des précédents livres en 2009, c'est qu'il y avait des liens entre les groupes de combat de Boko Haram qui montaient dans le nord Mali, se formaient aux embuscades, à la pose de ce qu'on appelle les IED, les engins explosifs de fabrication artisanale, à la capture également de touristes, comment faire des vidéos après pour faire des revendications. Et donc, encore une fois, cette toute petite métastase de départ, en 10 ans, elle a un foyer cancéreux majeur dans l'Adrar des Ifogas, dans le nord du Mali. Elle a fait la conquête de tout le nord Mali. Et en janvier 2013, elle part à l'assaut du sud Mali. Et là, malheureusement pour elle, heureusement pour nous, elle tombe sur un os. Et cet os s'appelle les forces spéciales françaises.
Alors, vous avez évoqué à l'instant Boko Haram. Le Nigeria, c'est aussi un de ces exemples que vous prenez d'États faillis, ou en tout cas dans certains de ces territoires. On est toujours en Afrique. Et donc, vous expliquez que là aussi, on a comme ça des similitudes avec ACMI, avec d'autres organisations terroristes. Et ce qui m'a frappé concernant la situation qui est très troublée au Nigeria, c'est que vous ne vous intéressez absolument pas au MEND, c'est-à-dire au mouvement pour l'émancipation du Delta du Niger, qui pendant longtemps a bien fait parler beaucoup plus de lui que Boko Haram. Il s'agissait donc d'une réaction terroriste, violente, des habitants du Delta qui avaient le sentiment de se faire exploiter par les compagnies pétrolières et de voir leur environnement se dégrader. Et pour aller plus loin, c'est un petit peu le sentiment que j'ai eu dans l'ensemble de votre livre, vous ne dites jamais que les interventions armées, c'est pas seulement des entreprises stratégiques, nécessaires pour rétablir la sécurité, pour lutter pour des idéaux, pour lutter et rétablir la liberté. Vous ne dites jamais que c'est pas que ça, qu'elles obéissent aussi à des logiques économiques. Et au Nigeria, avec le MEND, on est en plein dedans. Mais l'intervention française au Mali n'est pas que stopper un groupe armé, c'est aussi sécuriser des ressources premières. Alors, pourquoi ne pas avoir assez mis en avant ce côté économique des interventions armées?
Alors, peut-être parce que ça me semble, en général, très développé, et développé avec une telle ampleur que ça donne une image fausse de ce qui se passe. La France est souvent accusée, de double jeu ou d'essayer de défendre des intérêts économiques. On reviendra au Mali, enfin surtout au Niger, parce qu'au Mali, honnêtement, il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêts stratégiques. Il y en a même, sur le plan économique, il n'y en a aucun. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas d'uranium, etc. L'uranium est au Niger. Le constat que je fais, c'est que justement, je reproche à mon pays, la France, d'agir trop souvent par idéal et pas assez par intérêt. Alors, c'est une réalité qui est inaudible en France. On ne peut pas dire un truc comme ça, c'est pas possible, mais comment que ça? Par exemple, la France est présente en Bosnie-Herzégovine pendant la guerre civile en Bosnie. La France va perdre 88 soldats pendant la guerre de Bosnie. Elle est en pointe. C'est un général français, le général Janvier, qui commande la FORPRONU, la force de l'ONU pour la Bosnie. En 95, quand Jacques Chirac arrive, c'est lui qui change la donne en envoyant non plus des casques bleus, mais des casques verts avec les Néerlandais et les Britanniques. Et c'est cette position-là, au cabinet du ministre de la Défense, qui change la donne là-bas et qui va déboucher sur ce que certains appellent les accords de Dayton et que moi j'appelle les accords de Paris, parce que c'est la France qui pèse, qui récupère les marchés de reconstruction. La France ? Non. La France a été présente sur l'aéroport de Sarajevo pendant tout le temps. On a eu des soldats tués là-bas. Qui récupère la reconstruction de l'aéroport ? Les Italiens. Qui récupère la plupart des contrats de reconstruction ? Les Américains. Et en se servant notamment des réservistes américains, qui sont très efficaces, qui sont projetés sur ces théâtres de guerre, et qui vont préparer l'arrivée des chefs d'entreprise américains. Quand j'étais au cabinet du ministre, courant 95, je reçois un télégramme diplomatique annonçant la mort du secrétaire d'État américain au commerce extérieur. Son avion s'est crashé sur le mont Igman. L'arrivée sur Sarajevo, sur l'aéroport, est assez compliquée, parce qu'effectivement, il faut que vous passiez le mont Igman, et après que vous redescendiez sur Sarajevo. C'est un passage qui n'est pas complètement simple pour les avions. Et là, c'est un avion ministériel qui s'est crashé, il s'est pris le mont Igman. Bon, voilà, c'est une information, ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qui est mort avec le ministre. Eh bien, vous aviez dans l'avion du ministre une vingtaine de représentants d'entreprises américaines, emmenés par le ministre. Là où la France, pays des droits de l'homme, un certain nombre de valeurs que j'admire et que j'aime, n'avait jamais eu l'idée de faire ça. Et notamment, les réservistes français n'étaient pas suffisamment, qui étaient présents là-bas, dans le cadre notamment de ce qu'on appelle les ACM, les actions civilo-militaires, n'étaient pas du tout utilisés, parce que l'armée avait des pudeurs par rapport à ça, comme tête de pont pour permettre aux entreprises françaises de venir. Donc, cet exemple, parmi d'autres, montre une chose qui est une réalité que je défends, bec et ongles, contre beaucoup de discours très parisiens. Trop souvent, la France et les Européens ne savent pas défendre et développer leurs intérêts économiques. Mais je vais aller plus loin parce que vous soulevez, et vous allez voir le lien entre votre question, qui est importante et qui est souvent une question que j'ai quand je vais faire des confs à l'ENA, Sciences Po, etc. Oui, mais monsieur, vous ne parlez pas, tout ça, en fait, vous cachez le fait que ce sont des intérêts, c'est la France-Afrique. Je
suis pas très original, alors.
C'est une vraie question. C'est pas parce que cette question est souvent posée qu'elle n'est pas pertinente, qu'elle n'a pas... Je trouve que ces sujets sont suffisamment importants pour poser toutes les questions, et j'aime bien tuer les poncifs. Dans la lecture de ces phénomènes, il y a en France, notamment en Europe, mais surtout en France, une surévaluation des lectures économiques sous l'angle colonisé, colon-colonisé. C'est-à-dire les vieilles grilles d'analyse consistant à qu'on plaque un peu partout pour surtout pas voir les réalités du terrain et les responsabilités des élites locales, consistant à dire « mais oui, c'est un complot américain » ou « quand la France intervient, c'est parce qu'elle a des intérêts, elle veut défendre son beefsteak, etc. » C'est largement faux et c'est largement inopérant pour expliquer ce qui se passe. Et le fait de se polariser là-dessus fait que une partie des intellectuels français passe complètement à côté d'une réalité qui est non pas alimentée par des problématiques économiques, elles existent, des réalités sociales, elles existent, mais par un soubassement religieux, par l'expansion du salafisme de combat, qui est extrêmement puissant dans le monde entier, et en France notamment, mais comme ce que Jean-Pierre Le Goff appelle le gauchisme culturel est totalement inapte à analyser le phénomène religieux, parce que c'est quelque chose qui a été sorti du jeu, sorti du paysage, notamment avec une détestation farouche de tout ce qui pouvait être chrétien, tout ce qui a imprégné la France, le fait qu'il ait pu avoir dans les banlieues, populations immigrées, donc victimes, autre chose que des problématiques socio-économiques, c'est impossible aux intellectuels de gauche de regarder cette réalité-là. Je vous renvoie au livre que Jean Birnbaum vient de sortir, « Silence religieux », qui n'est absolument pas tant, parce que je trouve que ça sonne un peu comme un mea culpa aussi de sa part, sur le fait que donc ce qui sous-tend tout ça, ce sont des problématiques religieuses à travers le salafisme de combat, et que vous avez aujourd'hui malheureusement dans le monde arabo-musulman, dans le monde africain et dans le monde occidental, une incubation du salafisme de combat qui aujourd'hui germe, et que tout cela ne se réduit pas aux vieilles lectures qui arrangent un certain nombre de personnes sur « ah oui, mais c'est les intérêts derrière », etc. Voilà en tout cas mon point de vue par rapport à cette question importante, même si elle est souvent posée et qui n'est pas banale.
Alors, autre surprise de taille que vous décrivez dans la première partie de votre livre, évidemment, c'est l'émergence de l'État islamique, acteur dont l'importance a été au départ sous-estimée, et pas par n'importe qui, par Barack Obama lui-même, c'est bien ça?
Tout à fait, c'est assez étonnant, mais ça illustre aussi la grande erreur d'analyse et d'interprétation du personnage Obama. C'est un homme remarquable, ça faisait du bien d'avoir quelqu'un d'intelligent, de smart, après George W. Bush, que je classe dans les personnages messianiques, dans le mauvais sens du terme.
Sauf que vous dites, Obama, il est trop intelligent.
Voilà, le problème de Barack Obama, c'est qu'il est trop intelligent. Michelet, l'historien français, disait du duc de Brunswick, le duc de Brunswick, c'est ce général prussien donc, qui a promis à la population parisienne d'être passé au fil de l'épée si elle touchait un cheveu du roi ou de la reine, manifeste de Brunswick, qu'on apprend à l'école. Michelet disait de Brunswick, c'était à son époque le général certainement le plus brillant, le plus cultivé de toute sa génération, et à cause de cela, il était hésitant. C'est exactement Barack Obama. C'est un juriste, beaucoup de respect pour les juristes, donc c'est un homme qui a besoin de rationaliser les choses. Or, ce qui frappe dans l'époque actuelle, c'est que nous avons un retour de l'histoire par son versant irrationnel, notamment à travers la guerre. Et je l'ai trouvé plutôt extrêmement pato, gêné, hésitant, mauvais président dans ce sens, face aux problématiques de guerre, de retour de la guerre, avouant sur la Mésopotamie, sur le Levant, d'avoir pas de stratégie. C'était assez honnête intellectuellement, c'était un peu inquiétant. Et puis sur le phénomène Daesh, de façon absolument incroyable, ce qui prouve que c'est un homme aussi qui n'écoute pas son entourage, ce qui explique aussi pourquoi sur deux mandats, il y a une valse des conseillers d'Obama qui est considérable. Et ça, c'est quand les gens sont trop intelligents. Ils pensent qu'ils savent tout, qu'ils ont tout compris, donc ils n'écoutent pas. Et au bout d'un moment, les gens de leur entourage partent ou ils sont virés. Je pense que si on faisait les ratios, c'est certainement un des présidents qui a le plus consommé de secrétaire d'État à la Défense, de conseiller. Il avait des gens brillantissimes autour de lui. Donc c'est quelqu'un qui n'écoute pas parce qu'il est trop intelligent.
Vous dites Jean-Yves Le Drian a connu trois conseillers différents.
Trois homologues équivalents au ministre de la Défense, donc secrétaire d'État à la Défense dans le système américain. Il en a connu trois, donc en 3 ans. Bon. Ce qui est quand même assez... En général, c'était plutôt dans le sens contraire. C'était les Français qui, notamment à l'économie et les finances, où nos homologues les voyaient défiler à toute vitesse. Bien. Alors pour venir à votre question précisément, en 2014, il est interrogé sur un groupe de combat qui émerge, qui s'appelle l'État islamique en Irak et au Levant, qui est un groupe qui a été créé en 2006 par al-Baghdadi, qui était un des lieutenants d'al-Zarqawi, le Jordanien, qui était le chef d'Al-Qaïda en Irak dans la guerre contre les Américains.
Cette interview, c'est le New Yorker le 7 janvier 2014.
Exactement. Et donc, on interroge Barack Obama sur cette force. Et il dit en substance et de mémoire qu'il n'y a pas tellement à s'en inquiéter parce que c'est une équipe de série B ou de deuxième série B, de, alors je ne sais plus si c'est de basket ou de football américain. Voilà, alors ce jugement, évidemment, malheureusement, quelques temps après, cette petite équipe prenait Raqqa, Mossoul et partait à la conquête de Bagdad. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que cette petite équipe venait de prendre Fallujah. Et la ville de Fallujah, qui est en Irak, c'est une ville extrêmement symbolique, très très forte. Je raconte dans mon livre « Les guerres modernes racontées aux civils et aux militaires » donc de 2009, la bataille de Fallujah, les batailles de Fallujah. Il faut que vous sachiez, il faut savoir qu'aujourd'hui, Fallujah, pour les Américains, c'est la bataille de Verdun. C'est-à-dire dans le panthéon des batailles militaires, quand vous allez dans les unités qui sont battues à Fallujah, c'est exactement le même rapport à Verdun, c'est-à-dire ça a été une guerre dantesque, démente. Je donne des détails sur la façon dont ça s'est passé. Ça a été des combats horribles. Tout d'abord, les Américains ont été battus dans une première tentative de prendre Fallujah, qui était une ville tenue par les groupes de combat d'Al-Qaïda et certaines milices sunnites. Il a fallu qu'ils y aillent une seconde fois. Ça a été des combats hallucinants, hallucinants dans le détail de l'horreur et tout. Et cette ville-là, Fallujah, venait d'être prise par l'État islamique, et vous avez un Barack Obama, président de la première puissance militaire américaine, qui dit « Oh non, mais c'est un petit événement, et il faut attendre quelques mois plus tard pour que son secrétaire à la Défense dise « C'est une force extrêmement dangereuse ». parce qu'elle allie la force militaire tirée des anciens baassistes laïcs de Saddam Hussein aux fous de Dieu issus de la filière Al-Qaïda. Et aujourd'hui, donc, cette petite équipe de série B a créé un proto-État, un gouvernement avec 40 ministres. Bon, ils en ont 16 ou 19 qui ont déjà été tués. Et dedans, vous avez ministre du pétrole, l'économie et des finances, de la communication, de la religion. Vous avez un chef d'état-major des armées du califat qui est géorgien. Vous avez 90 nationalités représentées. Voilà. Et donc Barack Obama est certainement le président qui a été le plus complètement décalé, gêné par son prix Nobel de la paix, élu pour se désengager et qui se retrouve face à une guerre incroyable puisque Daesh est présent aujourd'hui sur 5 continents sur 6.
Merci Pierre Savant.
Merci à vous.
Vous l'avez compris, on ne peut pas dire que Pierre Servan verse dans le panégyrique aveugle de Barack Obama. On continuera la semaine prochaine de feuilleter avec son auteur le livre « L'extension du domaine de la guerre » paru aux éditions Robert Laffont. Et il sera de nouveau question de Barack Obama, si si, mais pas uniquement. On parlera de Vladimir Poutine, d'Al-Baghdadi, vous savez, celui qui dirige l'État islamique, et son prétendu califat. Bref, on reparlera de géopolitique, de terrorisme et de conflits. À la semaine prochaine, donc. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas l'essentiel.